Cet enregistrement audio a été préparé par le Conseil Jeunesse Provincial de la Nouvelle-Écosse.
Bienvenue à Walking Africville, une visite audio pédestre historique du parc Africville. Tu sais, ce n'a toujours pas été un parc. Il appartenait autrefois à une communauté florissante, et ça a aussi été ma maison. Je m'appelle Paula Greensmith, et j'ai une histoire à vous raconter. Africville s'étendait sur des terrains-ci et allait même encore plus loin vers Fairview. La communauté était divisée par deux séries de voies ferrées, la voie du haut et la voie du bas. Il avait trois secteurs. Il avait Big Town, Up the Road et Around the Turn. Africville a toujours eu un fort esprit communautaire. Cet endroit garde les souvenirs de familles qui ont survécu et prospéré ici pendant des générations. Des familles qui pêchaient sur des rives, jouaient sur le terrain, pratiquaient leur foi et prenaient soin l'une des autres. Pendant la marche, vous allez m'entendre, moi et d'autres personnes, parler de notre enfance à Africville. Je vais vous guider tout au long du parcours, alors quand vous entendrez ma voix, je vous dirai quel chemin suivre. Vous pouvez mettre l'audio sur pause en tout temps à l'aide des commandes sur votre appareil mobile. Si vous arrivez à un de nos arrêts avant la fin de l'histoire, attendez-moi là. Quand vous êtes prêt, descendez le sentier de gravier à gauche et arrêtez-vous à l'endroit où le sentier se sépare en plusieurs voies. Maintenant, regardez à votre gauche, là où se trouve le terrain de jeu. Africville était aussi comme un grand terrain de jeu.
On était... Oh, on jouait au jeu de lancer de fer à cheval et au baseball.
On pouvait être entre deux jouets. On avait un, ce qu'on appelait le South East End. C'était juste en bas devant ma maison, là où je vivais. Et des fois, on se mettait à jouer au ballon.
Et les plus jeunes, c'est nous autres qui commencions les jeux. Oh mon Dieu, on avait pas de bâton, alors on utilisait des bâtons de bois. Et on avait un lanceur et des fois on avait même un abri et un. Et les matchs faisaient, tout le monde était sur la base. On a pris le champ extérieur, on avait des gares là-bas sur les voies ferrées et c'était juste... C'était presque comme un carnaval parce que c'était comme si toute la communauté sortait et tout le monde s'impliquait. Nos matchs de baseball, mais c'était incroyable. Les matchs de baseball, et ça durait pendant quelques heures. Et après, les plus vieux commençaient aussi un match. Et nous autres, les jeunes, on les regardait jouer. Le magasin de l'oncle Bunny était juste là. Il faisait beaucoup d'argent avec les boissons gazeuses, les bonbons, les choses comme ça, parce que tous les enfants et tout le monde allaient à son magasin.
Et une chose qu'on faisait souvent, c'était ennuyer mon oncle Bunny.
Et on serait là en bas à frapper et frapper sur la porte et tout. Il n'était jamais dans le... Il était en haut à la maison et criait son nom. Hein. Viens donc en bas, on veut quelque chose au magasin. Et ouais, donc quand il descendait, il serait fâché. Arrêtez de m'agacer, arrêtez de m'agacer.
Et il était grand cheu. On mettait nos manteaux par-dessus nos têtes et puis on se jetait dans la porte du magasin, juste pour le taquiner. Et il sortait autour du coin, autour du comptoir pour nous courir après. Il était fâché, mais pas vraiment fâché, parce qu'il était habitué à nous. On prenait un balai, puis on le mettait sur le fil là-dessus, et on balayait un côté à l'autre, juste pour l'ennuyer. Mais ouais, c'est le genre de bêtises qu'on faisait. On va tourner à droite ici. Comme il y a deux sentiers à droite, prenez celui le plus près de nous, celui avec le banc sur le côté. Continuez à marcher jusqu'au prochain croisement et attendez là.
On passait toute la journée dehors à jouer comme des enfants, tu sais. On n'avait pas peur d'aller nulle part. Il n'y avait pas d'endroit où on ne pouvait pas aller.
Alors, en hiver, quand on allait faire de la luge, on montait jusqu'à la voie du haut. Et puis on descendait en glissant à travers la voie du bas. Ensuite, tout à droite à travers Barrington Street jusqu'à la clôture de Granny Pink. Et si tu faisais un virage serré, tu pouvais descendre tout à droite jusqu'à Timmy's Pond. Tu sais, C'était une longueur descente et puis une longue marche pour remonter après. Et le carton, c'était le matériau idéal pour glisser. Si tu n'avais pas de luge ou de toboggan, n'est-ce pas? Mais nous autres, moi, mon frère et mes deux cousins, nous avions un capot de moteur et notre auto, un camion et deux. Et nous quatre, nous pouvions embarquer sur le capot. Et puis tu savais jamais de quel côté tu allais partir. Ouais, quand tu descendais cette colline, tu étais dans le pétrin si le capot restait à droite. Tu serais correct, sinon tu pouvais revoler partout. On utilisait aussi pour aller chercher de l'eau, hein. Mais on mettait nos seaux dessus pour l'eau. Et on mettait aussi des sacs de charbon dessus pour les tirer jusqu'à la maison, hein. C'était vraiment un outil, mais on l'utilisait pour glisser.
Et on descendait par la These Hills. C'était une grande colline, très raide.
La colline sur laquelle on glissait était juste à côté de Tante Dou et de Oncle Bonnie. Tu sais, et chaque fois qu'elle lavait son plancher, elle jetait de l'eau de lavage là-dessus, hein. Et ça faisait comme une place super glissante. Et en dessous de ça, on avait construit une bosse, comme un gros tas de neige pour que quand on frappait la glace, on décollait dans les airs. C'était vraiment le fun.
Marcher jusqu'au sentier à notre gauche.
Continuez tout droit et arrêtez-vous lorsque vous arriverez à la clôture au bout du sentier.
Regardez les arbres sur votre gauche. Vous voyez ce grand pylône électrique coincé entre le chemin Africville et la rue Barrington?
À gauche de ce pylône et en haut de la colline se trouve un endroit qu'on appelle aujourd'hui The Lookoff.
Au sommet de cette colline, on peut voir toute la communauté. Ça faisait autrefois partie de mon quartier, celui qu'on appelait Up the Road. Beaucoup de familles vivaient là-haut, autour de la voie ferrée du haut. Et tout en haut, il avait le foyer pour personnes âgées, Basin View Home, la prison de Rockhead et la ferme prison. Cette colline était l'un des principaux points d'entrée et de sortie d'Africville, surtout pour les écoliers et les gens qui allaient travailler. C'était un passage important pour le travail, l'école et les bêtises d'enfance.
Beaucoup de femmes travaillaient à l'hôpital Basin View. Beaucoup de femmes travaillaient là. En fait, c'était un bon endroit parce qu'elle avait juste à monter la colline à pied, tu sais.
Ma mère travaillait comme domestique. Et pendant toute sa vie professionnelle, elle a fait du travail domestique. Et puis, elle a pris sa retraite de l'hôpital. Dans le service d'entretien, ouais, elle était une femme travailleuse comme beaucoup d'autres femmes de chez nous.
Ma mère travaillait à l'hôpital Victoria General en ville.
Et la mère de Béatrice et ma mère, elles étaient des pionnières. Ma mère travaillait à Stadacona et elle était serveuse. Elle devait être au travail très tôt. Alors ma mère et la mère de Béatrice et la neige étaient jusqu'à votre poitrine. Elles dégageaient le sang tout le long autour du terrain jusqu'en haut de la colline. Et elles allaient travailler à pied. Elles faisaient ça tout le jour.
On prenait notre petit déjeuner et puis on partait à l'école. Les plus jeunes, eux, il y avait un autobus qui passait.
L'école avait des règles. Si tu avais atteint un certain âge, que l'autobus soit plein ou non, tu ne pouvais plus embarquer.
Une fois que tu avais 13 ans, tu devais descendre de l'autobus et marcher. Et c'était quand même un bon bout de chemin. On allait à l'école Midgrave Park, qui s'appelle maintenant Highlight Park. Et il fallait monter cette colline pour se rendre à l'école.
Et quand on rentrait de l'école, on passait par ce coin-là, n'est-ce pas? C'est durant l'été, Charlie Gross, il s'installait de gros haut-parleurs là-haut et il faisait jouer de la musique, soul, du James Brown. On entendait ça presque partout à Africville, hein, parce que Africville était pas mal en dessous de lui, tu vois? Alors, il faisait jouer sa musique. On allait accueillir des baies par là.
Des framboises, des bleuets, des mûres, il y en avait partout, toutes fraîches. Tu sortais, tu prenais un contenant, tu t'asseyais là et tu cueillais tes fruits. Puis tu rentrais à la maison et faisais une tarte maison.
Quand les prisonniers avaient tout planté dans les jardins et que à l'automne, tout était mûr, les choux, les navets et tout ça, ben, on allait chercher nos autres aussi. Pendant la nuit, tu vois, on allait chercher les nôtres et la police nous poursuivait. On était à l'intérieur de la clôture, ils circulaient dans leur voiture et on courait par ici. Faisait demi-tour et revenait par là. Et puis une fois, rendu dans le bois, ben là, on pouvait leur échapper, tu vois.
Faisons une petite pause ici. Vous voyez ces voies ferrées l'une à côté de la rue? On les appelait les rails du Bab et elles traversaient toute la communauté d'Afriqueville.
Assurez-vous d'écouter attentivement parce qu'un train peut passer à tout moment. La voie ferrée que le gouvernement a installée ici dans les années 1850 était à la fois une source de danger et une partie intégrante de notre mode de vie. Une source de revenus, de matériaux et aussi un lieu de rassemblement pour chanter et jouer de la musique jusque tard dans la nuit.
Là où j'habitais, on appelait ça « Around the Drum ». Je devais traverser 15 voies ferrées pour me rendre à l'autobus scolaire.
Les trains faisant juste pendant des jours, les trains restant sur ces rails-là. Et parfois, il fallait aller jusqu'au bout pour pouvoir traverser jusqu'à l'autre côté de la route. Si on prenait l'autobus, il fallait parfois, une fois le train des places passé en dessous, pour se rendre à l'autobus sur la route. Et si on montait jusqu'à l'église à pied, parfois on n'entend pas les trains. Il fallait qu'on marche ces structures en bois ici, les piliers, et voici la roue qui passait entre les rails. Il fallait toujours regarder en arrière pour s'assurer qu'un train n'arrive.
Dans ce temps-là, quand tu achetais un sac de patates, c'était pas un petit sac. C'était un sac de 75 livres, tu sais, et ça venait dans des sacs de comme de jute. Alors, on avait toujours ces sacs-là et on les utilisait pour à peu près tout. Quand les wagons de charbon traversaient sur les rails, le conducteur arrêtait le train et les gens montaient sur le train et ils lançaient le charbon en bas. Puis on utilisait ces sacs-là, ces sacs en jute, pour ramasser le charbon.
Et on savait que chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, on allait sur le train et...
On ouvrait des wagons, ouais. Si le train était arrêté, il y avait un genre de levier de frein. Il y avait une tige dans le frein qui retenait les sabots du frein. Ben, on le retirait simplement et on brisait le seau du wagon. Et on s'en servait pour taper sur le... Il y avait un coin dans la porte et on tapait dessus pour dégager et on le retenait un. Puis on faisait simplement glisser la porte pour le fermer. Et voilà, t'étais prêt à partir.
Les gars entraient dans le wagon et lançaient les choses dehors. Et il y avait des gars qui couraient à côté, qui les attrapaient, les déposaient. Ouais. Et après, on essayait de refermer la porte à l'arrière quand on avait fini parce qu'on ne voulait pas la laisser ouverte.
Souvent, ils transportaient de tout. Des jeeps de l'armée jusqu'à du grain pour les animaux et tout ça dans les wagons. Alors, parfois, tu tombais sur de bonnes choses. Tu pouvais ouvrir un wagon qui avait des couvertures électriques. C'était genre des choses là, tu sais, et que tu pouvais trouver dans ces wagons.
Et on chantait sur les rails jusqu'à tard le soir.
J'allais me coucher le soir et on ouvrait les fenêtres, si c'était une belle soirée. Et on entendait les gars les plus âgés sur les rails chanter. On appelait ça du « do-whooping », ce qu'on appelle aujourd'hui de l'harmonisation. Et je m'endormais, tu sais, bercé par leur voix ou par le bruit du train. Les trains passaient souvent, mais on s'y habituait. C'était ça les choses qui nous endormaient. Et quand ces jeunes hommes se mettaient debout sur le passage, sur les rails, et qu'ils chantaient, qu'ils harmonisaient, c'était tellement beau à entendre, vraiment. On s'allongeait dans nos lits et on les écoutait. Tu sais, on s'endormait doucement. Waouh, c'était magnifique. Ils chantaient ces vieilles chansons comme « I found my trail on Blueberry Hill ». Tu ne connais sûrement pas ces chansons-là, n'est-ce pas?
I found my thrill on Blueberry Hill, where I found you.
Ok, maintenant, faisons demi-tour et prenez le sentier de votre gauche, celui qui longe les voies ferrées.
Vous allez voir une bifurcation un peu plus loin sur la route, mais on ne s'arrête pas là. Restez sur le sentier à votre gauche et continuez à marcher jusqu'au prochain.
Vous apercevez le musée d'Afriqueville au loin. Le musée est une réplique de l'église Baptist Seaview United. C'était le cœur et l'âme d'Afriqueville. L'Église rassemblait tout le monde pour les services religieux du dimanche, des occasions spéciales, et elle accueillait toujours les gens des autres religions.
Moi, je viens du côté catholique. Ma grand-mère était catholique, mon père était catholique, ma mère a épousé mon père et elle est devenue catholique. Elle était baptiste et toutes nos autres familles étaient baptistes. Mais moi, j'allais aux deux églises, baptiste et catholique. J'allais à Saint-Stephen's, au sommet de la colline, et je venais à l'église le dimanche et j'allais à l'école du dimanche.
Ah, les dimanches étaient, tu entendais les cloches sonner, l'église et tout le monde se mettait sur son 31.
On partait pour l'église. L'église était sur la route principale, en bas de chez moi. On devait traverser les rails, puis on montait jusqu'à l'église. Les adultes étaient dans l'église, à faire leur affaire d'église, et les enfants étaient dans les vestibules. C'est comme ça qu'on l'appelait, à apprendre les choses de l'école du dimanche. Et en grandissant, quand on est devenu des plus grandes filles, on enseignait l'école du dimanche. On faisait des lectures, des questions-réponses, tu sais. On apprenait toujours la Bible.
Mes sœurs et moi chantent dimanche, on chantait pour la communauté et partir de nos églises. On valorise aussi les autres communautés noires et certaines communautés blanches qui nous invitaient. De la même manière, on arrive à l'église un dimanche et après l'église, ils nous invitaient chez eux et disaient « Sœur West, j'ai un hymne que j'aimerais beaucoup que les filles apprennent. » Alors, on allait chez eux, on mangeait un bon dîner, puis ils nous donnaient le disque. Eux, on la rapportait à la maison, around the turn, et moi, je notais chaque mot. On chantait toute la semaine, puis on revenait la semaine suivante et on le chantait à l'église a cappella. On n'a jamais eu de la musique derrière. Nous, on chantait toujours. On n'avait pas... Ma mère avait une méthode. Elle disait, garde la mélodie de l'hymne dans ta tête. Alors, tout ce qu'on avait à faire, c'était se concentrer sur les paroles.
On avait des services à l'aube à notre église. Il commençait à 5 heures du matin et l'église était pleine à craquer. Et on avait le révérend Steer ou le révérend Olivier qui venait prêcher, mais tout le monde venait au service du lever du soleil. Le dimanche de Pâques, à l'aube, nous les enfants, on s'habillait tous parce que tout le monde avait un petit bonnet, les petites chaussures, les petites chaussettes, le petit sac à main, et on montait la colline. Et puis on prenait l'autobus pour aller au centre-ville. Et on embarquait sur le ferry. On revenait de l'autre côté. Puis on retournait à la maison. Ça, c'était notre journée. Notre dimanche de Pâques.
En octobre, on avait les récoltes. La communauté achetait des fruits. C'était une levée de fonds pour l'église. Oncle Paul Carvey, je crois, il était un commissaire priseur et il mettait en enchère les allées de fruits. Il était bon, mais il était dur. Il disait, ce n'est pas assez d'argent, il faut miser encore. Mais c'est ça qui était formidable, parce que l'église était pleine de monde. Tu pouvais miser sur ce que tu voulais. Et si tu voulais acheter un sac, ben, ça te coûtait un peu plus cher, mais c'était pour l'église.
À l'intersection, tournez à droite. Continuez à marcher, passez le prochain croisement du sentier. Restez du côté droit et arrêtez-vous au banc un peu plus loin devant. Regardez bien autour de vous. Est-ce que vous sentez l'odeur du charbon et des poêles à bois qui chauffaient les maisons? Les familles étaient en train de cuisiner à fond. Sentez ces bons repas qui se préparaient. Parfois, on pouvait aussi trouver des remèdes maison qui bouillaient doucement sur le poêle. La maison était entretenue par tous les membres de la famille. Et c'était aussi un lieu pour célébrer la vie.
On aimait beaucoup nos soupers du dimanche, comme le bœuf salé et le chou. Le dimanche, c'était un repas de famille dans chaque maison, après l'église.
C'était toujours un gros repas parce que bien souvent, les gens venaient nous visiter aussi, hein, et on cuisinait toujours assez, toujours. Ma mère, par exemple, elle faisait des galettes de poisson, des fèves au lard, du pain rond, et elle faisait de la pâtisserie, des tartes. Et si je savais que ma tante avait préparé quelque chose d'autre que jamais, ben que je passais chez elle pour en prendre un peu, tu sais, mais jamais sans manger, jamais faim.
Mais ma grand-mère venait souvent. Elle vivait dans une des communautés noires à Sherbrooke. Elle venait faire toutes nos remises. Elle faisait bouillir des oignons et de la mélasse sur l'épaule. Elle laissait fermenter ça pendant des jours.
On appelait ça la graisse d'oie et la mélasse. La graisse d'oie et la mélasse, OK? Mon neveu était très, très malade et mon père avait préparé le mélange et lui en a donné pendant tout un week-end. Et après ça, il était guéri.
Ma grand-mère connaissait toutes les herbes dans les bois et à quoi elles servent. Elle avait appris tout ça à ma mère, oui. Ma mère avait 15 enfants et son dernier fils, elle a accouché elle-même. Elle avait appris la métier de sage-femme avec sa belle-mère.
On est né avec des sages-femmes. Elles étaient formées, tu sais. Elles étaient supervisées par un médecin. C'était le docteur Delhut, je crois. Il supervisait le travail qu'elles faisaient quand elles accouchaient les bébés et tout ça. Mais bon.
Je pense que j'ai appris un peu de ça. Ce serait Eddie Carvery. Et ma mère... était sage-femme. Elle a fait naître beaucoup de gens à Africville. Elle m'a donné naissance, moi aussi. Et tu sais, elle m'a parlé d'une paire de jumeaux. La mère leur avait dit de les garder, d'ouvrir un tiroir, et les bébés étaient vraiment tout petits. Ils les avaient mis dans des boîtes à chaussures et avaient préparé le riz et tout pour eux. Elle les gardait au chaud pendant 5 jours, ne les bougeait pas. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont appelé le doc, leur médecin, et ils ont amené les enfants directement à l'hôpital et un des deux est mort. Alors que s'ils les avaient laissés là, ils auraient survécu tous les deux.
Africville, c'était vraiment comme une grande famille. On se sentait en sécurité entre nous. Tu pouvais aller dans n'importe quelle maison et on allait bien prendre soin de toi. Mais parfois, cette sécurité-là était mise en danger.
Chaque printemps ou un printemps sur deux, la police venait avec les ramasseurs de chiens. Ils tiraient sur tous les chiens qu'ils voyaient. Je me souviens que ma mère disait, « Va chercher le chien, assure-toi qu'il soit dans la grange ou dans la maison. » Parce qu'on entendait les coups de fusil, hein, et tu savais ce qui se passait. La police était là, ils arrivaient tôt le matin avant que tu partes à l'école.
Mon chien arrivait en courant au coin de la rue. J'étais sur la véranda de ma mère et le linge séchait sur la corde. Mon animal, Jojo, arrivait au coin, terrifié par tous les fusils et les bruits de coups de feu, n'est-ce pas? Il faisait le tour du coin, il est revenu et ils l'ont abattu juste à mes pieds. Et c'était dangereux de faire ça à Africville parce qu'il y avait beaucoup de roches partout. Les balles auraient pu ricocher et tuer quelqu'un, tu comprends? Mais je n'ai jamais entendu dire que mes parents avaient reçu un avis de la ville disant qu'ils allaient venir faire ça. Ils arrivaient comme ça, tu les voyais arriver. Si quelqu'un avait son chien près de lui, il pouvait le rentrer dans la maison. Mais si ton chien était parti de l'autre côté des rails ou quelque part à se promener, ben ton chien, il le tuait.
Ça, c'était même pas légal. C'était même pas légal de tirer avec une arme à feu dans une communauté où il y a des gens, hein? Mais il le faisait. Oui, il le faisait souvent.
On va revenir vers le croisement du chemin, celui que l'on vient de passer. Ici, on tourne à droite en direction de l'eau.
Continuez à avancer et arrêtez-vous au banc, là où le sentier tourne vers la gauche.
Oh là là, regardez-moi cette vue. C'est le bassin de Bedford. On le voit vraiment très bien d'ici. On entend les enfants qui nagent, les hommes qui pêchent, et même un baptême qui a lieu au bord de l'eau.
Tu revenais de l'école, tu voyais quelqu'un dans un bateau, et si tu avais envie d'aller pêcher, tu descendais en courant jusqu'au bord de l'eau. Tu les appelais pour qu'ils viennent te chercher, et ils venaient te prendre à bord. Et là, tu partais avec. En fait, Nelson, la mère de Covery, Aretha, elle pêchait tout le temps. Elle et sa famille, son frère aussi. Ils pêchaient toujours. Et ils aimaient avoir des enfants dans le bateau parce que c'était toi qui levais l'ancre, tu vois. Pour eux, tu vois, tu t'asseyais à l'avant du bateau. Et si tu étais assis en avant, c'était à toi de tirer l'ancre et ils changeaient d'endroit. Hein? Et à l'époque, quand on allait pêcher, il y avait peut-être juste comme une ou deux personnes qui avaient un bateau avec un moteur. Alors il fallait ramener. Tu ramenais, tu levais l'ancre. Et on attrapait beaucoup de poissons. Et ce que tu rapportais par chez toi, tu les donnais aux autres et tu vois.
On devait traverser les rails et descendre la colline pour aller jusqu'au bord de l'eau pour se baigner. Il y avait un sentier qu'on suivait toujours pour aller nager.
On sortait sur le bassin, sur un radeau. Et les garçons plongeaient et nageaient. Et on pêchait aussi à partir du radeau. Et puis, si les garçons ne nous aimaient pas, ils nous lançaient à l'eau. Tout ce que je voyais quand ils me jetaient, c'était les coraux. Ils nous lançaient par-dessus bord, on remontait sur le radeau en criant, et tout ça, tu sais, puis on s'asseyait là, on profitait du soleil et de l'eau.
Il y avait une grande roche qu'on appelait la roche de la Crunchée. On nageait jusqu'à là, puis on revenait au bord. Après ça, on brûlait des pneus pour se sécher, juste pour retourner à l'eau ensuite. Et quand la marée était basse, on ramassait des bigorneaux, des moules, parfois même un gros homard si quelqu'un allait assez loin.
Et après, on cuisinait tout ça directement sur le rivage. Les gars faisaient un gros feu de camp et les enfants restaient là presque toute la journée.
On marchait le long de la route pour aller au baptême, tout habillé en blanc, les cheveux faits et tout. On marchait jusqu'au bassin de Bedford, là, pour se faire baptiser. On suivait les ministres et le terrassement de l'église. Et on entrait directement dans le bassin de Bedford. Et ils nous plongeaient, comme on dirait aujourd'hui, mais nous, on se faisait baptiser. On donnait notre cœur au Seigneur. On se faisait baptiser, puis on remontait la route. Et les gens sur les collines, là-haut, ils descendaient. Ils se plaçaient au sommet de la colline. Ils nous regardaient marcher vers l'eau. Ils prenaient des photos. Certains applaudissaient, d'autres encourageaient, pendant qu'on avançait vers le bord de l'eau. Et en marchant vers la rive, on chantait. Et une fois que c'était terminé, on retournait à l'église pour le service.
L'église Seaview était au cœur de la vie communautaire à Africville. Et comme le reste de nos maisons, elle a été démolie par la ville. Mais aujourd'hui, l'esprit d'Africville vit toujours dans nos cœurs et nos souvenirs. En regardant le musée qui aide à préserver notre histoire, souvenez-vous des personnes qui ont façonné cet endroit. En tant que communauté, leurs racines étaient profondément ancrées dans la terre, nourries par les familles de génération en génération. Ce sont leurs souvenirs, leur attention, leur travail qui soutiennent encore aujourd'hui le sol sur lequel vous vous tenez. Alors, que notre parcours se termine ici. Je vous laisse avec une question. Que signifie la communauté pour vous? Entamez cette discussion avec le personnel du musée d'Africville, avec vos amis, votre famille et vos voisins. Que cette expérience à Africville vous aide à nourrir ces conversations, à mieux connaître vos racines et à réfléchir à la manière dont vous pouvez, à votre tour, soutenir et élever les autres.